Jérémie, chapitre 9, versets 22 à 23. Et j'utilise la traduction la Colombe. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, oracle de l'Éternel. Quel est le plus grand problème de l'homme? Quelle est la cause de tous les malheurs de l'homme? Selon les Écritures, ce n'est pas un manque d'éducation ou une formation insuffisante. Ce n'est certainement pas un manque de ressources ou pauvreté. Si vous êtes spirituel, vous pourriez suggérer qu'il s'agit du péché en général. Mais cela reste trop vague et ne sert qu'à créer un tir ambigu sur lequel nous pouvons jeter toute la responsabilité. Mais non, selon les Écritures, le plus grand problème de l'homme est en fait lui-même. C'est la chair qui est encline au péché. Et nous avons cette confiance en nous-mêmes qui nous empêche d'aimer Dieu et de lui faire confiance, car nous préférons nous fier à nos propres capacités. Nous avons tellement de pouvoir aujourd'hui, plus que n'importe quel autre peuple, à n'importe quelle autre époque de l'histoire. Nous avons des merveilles à portée de main. Avec votre portable, vous avez accès à toutes les connaissances du monde. Vous pouvez savoir tout ce que vous voulez savoir à l'instant même. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez dans le monde pour vous simplifier la vie. Nous sommes forts et nous le savons. Il s'agit là d'un problème particulièrement insidieux. Et comme l'a dit le grand prédicateur Martin Lloyd-Jones, il était un prédicateur gallois, c'est un problème assez subtil, car les réalisations technologiques, les prouesses et les immenses richesses de l'homme ne sont pas intrinsèquement pécheresses, ni ne nous éloignent d'elles-mêmes de Dieu, mais l'homme a commis une grave erreur en faisant de ce qui devrait être des serviteurs, des maîtres. Prenez par exemple la sagesse humaine. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à être sage? Est-ce qu'il n'y a pas un livre entier de la Bible qui nous apprend à être sage? Ou est-ce que Dieu veut qu'on reste ignorant et sans savoir pour lui faire plaisir? Bien sûr que non. Mais la sagesse humaine, en dehors des limites fixées par Dieu, consiste à croire que nous avons en nous la capacité de résoudre tous nos problèmes. Que si nous travaillons et réfléchissons suffisamment, nous pourrons réparer ce qui ne va pas dans le monde. Et certains hommes sages, bien sûr, et certains hommes sages pensent que l'éducation rend le monde meilleur. C'est là, je pense, le fléau du siècle des Lumières et de l'humanisme laïque qui afflige la société occidentale depuis des siècles. On dit si seulement ces pauvres cannibales de la jungle savaient lire, tous leurs problèmes seraient résolus. Mais avec autant de diplômés universitaires et de brillants penseurs à travers le monde qui créent des technologies considérées comme de la science-fiction il y a seulement 20 ans, pourquoi y a-t-il encore des guerres? Nous nous entretuons simplement avec des moyens plus sophistiqués. Pourquoi les gens sont-ils toujours dépendants à la drogue? Pourquoi il y a toujours de la violence, des conflits et de la misère aux quatre coins du monde? Le fait d'avoir suivi les conseils des soi-disant experts a-t-il amélioré la situation sur Terre depuis que Jérémie a rapporté les paroles de Dieu? Non, Bien sûr que non, parce que la sagesse de l'homme ne suffit pas. Nous nous vantons et nous glorifions de notre propre sagesse, de notre capacité à raisonner et à résoudre les problèmes. Et ce faisant, nous sommes devenus esclaves de notre propre sagesse, qui est devenue notre maître. Nous jugeons selon la logique et la raison, plutôt que selon la révélation et la sagesse de Dieu. Et nous oublions que Dieu est aussi le Dieu de la raison et de la logique. Si l'homme se vante de la force de son bras, et évidemment, en tant qu'Américain, j'ai grandi en étant nourri d'une propagande constante sur la puissance de l'armée américaine. Et c'est une source de fierté nationale. C'est pas ma faute, mais aussi une source de, pour les Américains, c'est une source de réconfort pour chaque Américain. Mais pourquoi, vraiment pourquoi, pourquoi la puissance militaire est-elle rassurante? Dieu n'a-t-il pas déjà renversé toutes les autres puissances mondiales jusqu'à présent? Est-ce que tous les autres empires mondiaux ne sont pas effondrés? Et combien de grands rois se sont présentés comme des dieux pour être finalement ridiculisés par le seul vrai Dieu. Combien d'idoles Dieu a-t-il brisé en morceaux? Pour Moïse et son peuple, les Égyptiens étaient les plus puissants, mais Dieu les a vaincus par des plaies et une mer. Daniel et Jérémie ont été enlevés à Babylone pour servir des rois païens. Mais les prophètes leur ont tous survécu. À l'époque du prophète Isaïe, les Assyriens ravageaient le monde, littéralement clouant des villages entiers aux arbres pour témoigner de leur férocité. Les guerriers assyriens étaient si nombreux que leurs flèches assombrissaient le ciel. Mais Dieu finit par les détruire aussi. La Rome de Néron était la société la plus antichrétienne du monde. Et pourtant, les graines du christianisme ont fleuri, arrosées par le sang des martyrs. Le pouvoir dont se vantent les hommes est comme un chien enragé, un chien que nous pensons contrôler. Il est comme un feu dévorant qui finit par s'éteindre de lui-même. La force, comme la sagesse, la force de l'homme, sans les limites imposées par Dieu, conduit toujours à la destruction. C'est la tentation pour chaque homme et chaque femme. C'est de faire confiance à leur propre force plutôt qu'à celle de Dieu. Même s'il a constamment démontré que la puissance humaine ne signifie rien. La lutte de l'homme avec la richesse est très similaire à notre lutte avec pouvoir et sagesse. Et je sais que c'est une opinion impopulaire de nos jours, mais les Écritures ne nous amènent pas à croire que la richesse en soi soit quelque chose de mal. Ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux, mais l'amour de l'argent. Merci, c'est un Timothée 6. Posséder des biens. Et être capable d'en posséder davantage n'est pas un signe d'un mode de vie pécheresse ou immoral. Et inversement, la pauvreté n'est pas un signe de vie pieuse. Mais, c'est un grand mais nous avons fait de l'acquisition d'argent et de biens matériels une telle idole que notre monde tourne presque autour d'elle. Nous accordons la priorité à ceux qui sont plus riches que nous. Nous écoutons davantage leurs opinions, comme si leur immense fortune les rendait en quelque sorte différents des gens ordinaires. Nous ne pouvons pas nous en empêcher, parce que la richesse et les loisirs sont tout ce qui nous intéresse. C'est le grand péché de notre époque, je pense, accorder plus d'importance à la richesse et au plaisir qu'à toute autre chose. Et toutes ces choses, la sagesse, la puissance et les richesses, nous les avons élevées au-dessus de leur rang légitime et nous nous en délectons nous nous en glorifions. Tout comme Ève, qui a cru au murmure du serpent dans le jardin, nous n'avons pas nié ouvertement les instructions de Dieu, mais nous les avons perverties et déformées afin qu'elles ne ressemblent en rien à l'usage initialement prévu par Dieu. Des maîtres, comme Martin Lloyd-Jones a dit, des maîtres plutôt que des serviteurs. Et de notre grande sagesse, de notre puissance et de nos richesses, naît cette confiance en soi, pécheresse, qui se vante de pouvoir résoudre tous les grands problèmes de l'humanité. Alors qu'en réalité, notre plus grand problème, c'est nous-mêmes. C'est tellement ironique, n'est-ce pas? Que même si nous nous considérons comme si forts et si capables, l'humanité semble ne jamais être à court de problèmes. Alors que nous continuons à proposer des solutions avec notre grande sagesse, nous ne réalisons pas que nous sommes en fait la cause de tout notre mécontentement. C'est ironique, oui, et un peu ridicule, certes, mais cela devrait surtout nous attrister profondément. L'humanité est tellement aveugle à ses propres insuffisances qu'elle place sa confiance dans les mêmes maîtres aveugles et sourds et répète les mêmes erreurs stupides que toutes les autres civilisations. Mais Dieu dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Et pourquoi? Parce que ces choses ne suffisent pas pour nous sauver, ni des problèmes terrestres, ni des problèmes spirituels. Je sais, à cette église, vous avez entendu l'évangile de Jésus-Christ. C'est Dieu seul qui nous sauve et nous délivre parce que par le sacrifice expiatoire de son Fils unique, Jésus. Nous ne pouvons pas échapper à l'enfer par notre raisonnement, notre propre sagesse. Nous ne pouvons pas forcer l'entrée du royaume de Dieu. Et notre richesse représente absolument rien à la lumière des richesses glorieuses du Christ. Et savez-vous tout cela? Est-ce que c'était une réalité pour vous? Parce que personnellement, je dois avouer que souvent, oui, je reconnais que c'est vrai. Je sais que ma sagesse ne compte pour rien lorsque je lis les Écritures ou je suis sous le regard d'un prédicateur comme vous maintenant. Mais dès que je monte dans ma voiture dimanche pour rentrer chez moi, je recommence à faire des projets plutôt que de confier mes insécurités à Dieu. Nous ne sommes pas différents des Israélites rebelles de l'époque de Jérémie. Nous portons le même fardeau que nous nous sommes imposés, celui d'essayer de nous sauver nous-mêmes du malheur. Mais si notre propre sagesse, notre propre force et nos richesses sont des sauveurs aussi inutiles, comment pouvons-nous alors considérer la sagesse, la force et les richesses de Dieu? Tout d'abord, observons la sagesse de Dieu en contraste avec la sagesse humaine. Et tout simplement et avant tout, Dieu s'identifie non seulement comme un bon endroit où chercher des conseils, mais comme la source de toute sagesse et de la véritable compréhension. Proverbe chapitre 2, verset 6 dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la raison. Les paroles de Dieu sont sagesse. » La parole de Dieu est sagesse. Mais dans notre sagesse humaine, nous avons souvent tendance à rejeter la Bible comme une simple liste de règles ou un ensemble de suggestions sur la manière dont les gens devraient se comporter, pendant que nous cherchons les réponses en nous-mêmes. Nous pouvons faire référence à la parole de Dieu lorsqu'elle renforce notre propre position sur un sujet, Mais nous avons beaucoup de mal à la laisser déterminer nos positions dès le départ. N'est-ce pas fou? N'est-ce pas insensé? N'est-ce pas ce que Dieu appelle le contraire de sagesse, de la sagesse? Ce que Dieu dit dans sa parole est vrai. Tout ce que Dieu dit est vrai. Et ce n'est pas seulement vrai, mais quand Dieu parle, c'est la meilleure et la plus vraie chose qui puisse être dite à ce sujet. Et tout ce que Dieu a jamais fait est la meilleure et la plus sage chose qui ait jamais été faite. Et la Bible est la révélation que Dieu nous fait de lui-même. C'est lui qui nous dit la vérité. Il a utilisé des auteurs humains pour l'écrire et il a divinement préservé exactement ce qu'il veut que nous sachions sur lui-même et sur la manière de le glorifier. Mais même en tant que chrétien, trempé par notre chair, notre propre sagesse, nous ignorons souvent les enseignements clairs de Dieu parce qu'ils entrent en conflit avec notre sensibilité moderne. D'un côté, nous professons aimer le Dieu de la Bible pour ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Mais d'un autre côté, nous hésitons à être honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres, bien sûr, sur les sujets qui pourraient causer des frictions entre nous et notre culture. La différence entre la sagesse de Dieu et la nôtre réside dans le fait que notre sagesse dépend de notre compréhension limitée du monde. Le Créateur de l'univers n'est pas entravé par de telles limites et il comprend tout. Nous laissons des circonstances temporaires modifier notre perception du monde. Alors que Dieu est au-dessus de tout, il n'est lié ni par le temps ni par l'espace. Si nous craignons et vénérons le Seigneur, alors nous comprenons qu'il a une vision plus large que nous. Dieu a écrit un livre entier consacré à l'enseignement de la sagesse. Donc voici les premiers versets où il explique pourquoi. Proverbe, chapitre 1, versets 1 à 7. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner au simple de la prudence, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra l'art de se conduire. Pour comprendre un proverbe ou une sentence, les paroles des sages et leurs énigmes, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Connaître Dieu et comprendre ce qu'il veut, c'est la sagesse. Dieu nous a clairement dit que la sagesse est une bonne chose et qu'être insensé et ignorant signifie ne pas le connaître. Heureusement, la parole dit aussi que si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu et elle vous sera donnée. En Jacques, chapitre 1, verset 5. Dieu veut que vous le connaissiez. Il veut que vous le compreniez et il veut que vous soyez sages. Et maintenant, parlons de la force de Dieu. Mais la force de Dieu, plutôt que la force écrasante telle que nous l'imaginons, Dieu manifeste sa puissance en maîtrisant ce qui se croit fort. La force de Dieu n'est pas la fureur égoïste de Goliath, mais c'est la confiance inébranlable démontrée par David. J'ai déjà mentionné les innombrables exemples de puissance mondiale qui sont plus rien aujourd'hui, mais tout au long des Écritures, Dieu montre sa suprématie sur les armées. Soit il les écrase en un instant, comme dans le livre de Rois, lorsque toute l'armée de Syrie toute l'armée de Syrie, il dit, toute l'armée de Syrie est venue tuer le prophète Élisée, ou soit il les utilise à ses propres desseins, comme c'est le cas à l'époque de Jérémie. Dieu est la tempête, mais il calme aussi la tempête. Il parle à Job depuis le cyclone et lui commande de reconnaître que les bêtes les plus mortelles et les hommes les plus compétents ne peuvent rivaliser avec sa puissance. Mais aussi, sa force s'est manifestée lorsque le Seigneur Jésus a calmé les apôtres dans le bateau et arrêté les vagues avec un seul mot. Dieu a même pouvoir et la force, mais il a même pouvoir sur la mort. Plusieurs fois dans les Écritures, Dieu atteste de sa propre puissance en ressuscitant des personnes d'entre les morts. Le nom de Lazare est devenu synonyme de résurrection, mais il n'était pas le premier et certainement pas le dernier à être ressuscité d'entre les morts par Dieu. La mort est un problème insoluble pour l'humanité. 100% des personnes qui sont nées mourront. Car 100% des personnes ont hérité de la nature pécheresse d'Adam. Mais Dieu n'est pas découragé par la mort, parce qu'il est il en est le maître de la mort. En passant aux richesses de Dieu, contrairement à la richesse que les hommes recherchent, Dieu offre plutôt la satisfaction et le repos. Une richesse infinie, parce qu'il promet que vous serez infiniment satisfait du don que Christ vous a déjà accordé. Les hommes obtiennent la richesse grâce à des efforts incessants, en travaillant, en économisant, en investissant. Mais les richesses de Dieu sont le fruit du repos dans l'œuvre accomplie déjà par Christ. Nous avons lu Matthieu 6 plus tôt. Et encore, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? La confiance en la provision de Dieu et l'absence d'anxiété sont les richesses promises que Dieu donne à ceux qu'il aime. Donc, nous voyons que même lorsque l'homme poursuit des choses qui sont bonnes, comme sagesse, richesse, pouvoir, ces bonnes choses ne sont jamais à la hauteur des critères de Dieu. Le Seigneur rappelle à son peuple, à travers la prophétie de Jérémie, que sa sagesse, sa force et ses richesses ne le sauveront pas. Si vous connaissez le livre de Jérémie, vous savez que le contexte de ces courtes versets est que Dieu prononce son jugement sur Israël, qui s'est égaré pour ces générations de rébellion et d'idolâtrie. Le peuple de Dieu, dans sa propre sagesse, pensait que ses connaissances s'élargiraient en intégrant les traditions et les religions d'autres cultures païennes. Israël était également devenu assez fort pour ne plus craindre chaque fois d'un groupe de guerriers ennemis se présenter et pouvait désormais défendre son propre territoire. De plus, Israël était situé dans une région très prospère, avec plus de ressources naturelles que les nations environnantes. Il était fort. Israël était sage et riche. Et Dieu mettait fin à tout cela. C'est également notre problème aujourd'hui. Nous n'étudions pas seulement ce texte dans son sens historique, et n'évaluons pas seulement la manière dont Dieu a traité son peuple à l'époque, mais Dieu nous parle également aujourd'hui. Les hommes n'ont pas cessé de pécher exactement de la même manière que l'ancien Israël. Donc l'avertissement qui leur a été destiné est également un avertissement pour nous. Et la question que nous devons nous poser lorsque nous sommes confrontés à ce genre d'avertissement dans la Bible, qui nous demande de cesser de faire quelque chose parce que cela déplaît au Seigneur, c'est comment je peux plaire à Dieu? En fait, c'est la question que vous devriez vous poser chaque fois que vous lisez la Bible. Comment je peux plaire à Dieu? Y a-t-il un commandement ou un exemple à suivre? Y a-t-il quelque chose que je devrais cesser de faire ou commencer à faire? Dois-je changer ma façon de penser sur un sujet particulier? La sagesse divine nous enseigne que quand Dieu parle, nous devons écouter et obéir. Et très heureusement pour nous aujourd'hui, dans ce court passage, l'avertissement de Dieu est immédiatement suivi d'instructions sur la manière de lui plaire. Voulons-nous plaire à Dieu? Car lorsque le Dieu de l'univers parle et dit « Voici les choses qui me rendent heureux », nous devrions l'écouter. Verset 23. « Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. » Oracle de l'Éternel. Alors, Dieu exige que nous soyons vraiment sages et que nous le connaissions avant tout. La crainte, comme Proverbe chapitre 1 a dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Il révèle également trois traits uniques de sa nature qui lui plaisent particulièrement. Et c'est la bienveillance, la droit et aussi la justice. Et puisque ces choses sont importantes pour Dieu, elles devraient être importantes aussi pour nous. La bienveillance. Et cela ne signifie pas que Dieu est simplement gentil. C'est un malentendu qui a conduit les gens à remettre Dieu en question lorsqu'il fait des choses qui ne correspondent pas à leur définition de gentillesse. Mais Dieu est plutôt patient et miséricordieux. Il y a un mot en anglais qui est parfait, mais c'est « long suffering ». Il est patient avec nous pour longtemps. Il souffre. Son amour et sa bonté se mesurent en milliers d'années et non en bref instant, comme nous. Son amour pour nous est un amour inébranlable qui endure malgré nos nombreux péchés contre lui. Il prend plaisir à la bienveillance et si nous voulons lui plaire, nous devrions essayer d'imiter la bonté de Dieu. Le droit et la justice. Et cela ne correspond pas à notre conception humaine de la justice. Il ne s'agit pas d'équité, au sens où chacun reçoit des bénédictions ou les malédictions qu'il mérite sur terre. En fait, il y a dans la Bible bon nombre de personnes qui implorent Dieu de rendre justice afin que leurs ennemis soient punis et qu'elles-mêmes soient récompensées. Mais la justice de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Au contraire, Dieu voit au-delà de l'état temporaire de notre monde et se soucie de l'éternité. Il dit « Je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. » Si Dieu se souciait uniquement du simple équité, alors chacun d'entre nous serait mort et en enfer. Nous sommes tous pécheurs, et la punition pour le péché est la mort éternelle. Et de manière tout à fait injuste, au lieu de détruire toute l'humanité pour avoir transgressé sa loi, Dieu a plutôt sacrifié son Fils unique en paiement pour le péché et pour satisfaire sa justice parfaite. C'est le genre de justice qui plaît à Dieu. Je suis sûr que les Israélites n'ont pas réfléchi au contraste entre leur prospérité mal acquise et le caractère même de Dieu. Dans notre sagesse humaine et notre propre sens de la justice, nous nous considérons comme opprimés et maltraités, tout comme l'a fait Israël. Souvent, nous ne sommes que des victimes des circonstances qui tentent de survivre. Et ce n'est vraiment pas le cas. En réalité, nous sommes tous coupables, bien comme Israël. Mais heureusement, Dieu se réjouit de sauver les coupables. Et si vous avez cru au Seigneur Jésus et vous êtes engagé à lui obéir, alors vous êtes sauvé et réconcilié avec Dieu. Et maintenant, en tant que chrétiens, nous devons nous soucier de ce qui plaît à Dieu. Ainsi, plutôt que de nous fier à ce que le monde considère comme de la sagesse ou à nos propres capacités, nous plairons à Dieu en aimant patiemment, avec long suffering, ceux qui ne méritent pas d'être aimés, et en proclamant la justice de Dieu qui transforme ses ennemis en ses enfants. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous qui sommes insensés et forts, pouvons devenir sages en craignant Dieu et en lui obéissant. Amen.